L'île au trésor par Robert Louis Stevenson. Huitième cassette, première face, page 176. Chapitre 26, Israël Hans. Conformément à nos désirs, le vent tourna à l'ouest. En conséquence, nous pouvions naviguer d'autant plus facilement de la pointe nord-est de l'île jusqu'à l'entrée de la baie du Nord. Mais comme nous n'avions plus d'ancre, et comme nous n'osions pas échouer le bateau tant que la marée n'aurait pas monté davantage, nous avions pas mal de temps devant nous. Le patron de canot m'expliqua ce qu'il fallait faire pour mettre le navire à la cape. Mettre le navire à la cape, c'est avoir le moins de voile possible, de façon que le vent pousse pas trop le navire. J'y parvins après plusieurs tentatives infructueuses, puis nous nous assîmes tous deux en silence devant un autre repas.
« Capitaine Hawkins, dit-il enfin avec le même sourire inquiétant, tu voudrais pas des fois jeter mon vieux copain O'Brien par-dessus bord? Je suis pas très délicat pour sûr et j'ai pas de remords de lui avoir réglé son compte. Et je le trouve pas très décoratif. Qu'est-ce que t'en penses ?»«
Je ne suis pas assez fort pour ça. Et ce genre de travail ne me plaît pas du tout. En ce qui me concerne, il peut rester là. Ça m'est parfaitement égal. »
Quel fichu bateau de malheur, Jim, cet Hispaniola, reprit-il en clignant des yeux. Il y a eu des tas d'hommes tués à son bord, des tas de pauvres marins qui ont disparu depuis que toi et moi on a embarqué à Bristol. J'ai jamais vu une pareille déveine pour sûr. Tiens, par exemple, mon copain O'Brien, il est mort, non? Eh bien, vois-tu, moi je suis pas un savant, mais toi t'es un gars qui sait lire et compter. Alors je te pose la question franchement. D'après toi, c'est-y qu'un mort, il est mort pour de bon, ou c'est-y qui peut ressusciter?
On peut tuer le corps, monsieur Hans, mais pas l'âme, vous devez bien le savoir. O'Brien est dans l'autre monde, et peut-être qu'il nous regarde en ce moment.
Ma foi, c'est bien dommage. Autant dire que ça sert à rien de tuer les gens. En tout cas, les hommes, ça compte pas pour beaucoup d'après ce que j'ai vu. Je veux bien tenter ma chance contre les hommes, Jim. Et maintenant que tu m'as causé franchement, ça me ferait bougrement plaisir si que tu descendais dans la cabine pour me chercher une en mille sabords. Je peux pas me rappeler le nom. Ah oui, Jim, va donc me chercher une bouteille de vin. Cette eau de vie est trop forte pour ma pauvre tête.
L'hésitation du patron de canot me sembla fort peu naturelle, et d'autre part, je ne crus pas un seul instant qu'il préféra le vin à l'eau de vie. De toute évidence, il voulait me faire quitter le pont, mais je n'arrivais pas à deviner pour quel motif. Son regard ne rencontrait jamais le mien. Il errait en tous sens, tantôt se levant vers le ciel, tantôt glissant furtivement sur le cadavre d'O'Brien. Il ne cessait pas de sourire, la langue entre ses lèvres, d'un air si embarrassé, si coupable, qu'un enfant aurait compris qu'il méditait une perfidie. Néanmoins, ma réponse fut prompte, car je vis où était mon avantage, et avec un individu si lourdement stupide, je pouvais facilement dissimuler mes soupçons jusqu'au bout. « Du vin, dis-je, en effet, c'est bien meilleur. Préférez-vous du blanc ou du rouge ?»«
Ma foi, camarade, c'est pour moi, c'est du pareil au même. Pourvu qu'il soit fort et qu'il y en ait beaucoup, qu'est-ce que ça peut me fiche ?»«
C'est bon. Je vais vous donner du porto, monsieur Hans. Mais il me faudra le temps de le chercher. » Sur ces mots, je dégringolai la descente en faisant autant de bruit que possible, ôtai mes souliers, filer silencieusement le long de la coursive, monter l'échelle du gaillard d'avant et passer la tête hors du capot. Je savais qu'il ne s'attendrait pas à me voir là, mais je ne négligeais aucune précaution. En fait, mes pires soupçons ne se révélèrent que trop justifiés. Hans s'était dressé sur les mains et les genoux, et bien que sa jambe le fît beaucoup souffrir quand il se déplaçait, car je l'entendis pousser un gémissement sourd, il traversa le pont assez rapidement. En 30 secondes, il eut atteint les dalots de bâbord, c'est-à-dire qui sont à la gauche du navire, et tira d'un rouleau de cordage un long couteau, ou plutôt un court poignard, teinté de sang jusqu'à la garde. L'espace d'un instant, il le regarda d'un air farouche, en avançant la mâchoire inférieure, puis, après en avoir essayé la pointe sur sa main, il le dissimula vivement sous sa vareuse et se traîna de nouveau jusqu'à sa place contre le bastingage. C'était tout ce que je voulais savoir. Israël pouvait se déplacer et il possédait une arme. Donc, s'il s'était donné tant de mal pour m'éloigner, il semblait évident que je devais être sa victime. Naturellement, je ne pouvais pas dire ce qu'il ferait ensuite. Peut-être essaierait-il de traverser l'île en se traînant depuis la baie du Nord jusqu'au camp du marécage. Peut-être tirerait-il un coup de canon dans l'espoir que ses camarades viendraient à son secours. Néanmoins, j'étais sûr de pouvoir lui faire confiance en ce qui concernait la manœuvre de la goélette, car nos intérêts coïncidaient sur ce point. Nous désirions tous deux l'échouer dans un lieu sûr et abrité, de façon à pouvoir la remettre à flot quand le moment serait venu, avec le minimum de travail et de risque. J'estimais donc que tant que cela ne serait pas fait, ma vie ne se trouverait pas en danger. Pendant que je réfléchissais de la sorte, mon corps n'était pas demeuré inactif. J'avais regagné furtivement la cabine, remis mes souliers et pris une bouteille de vin au hasard. Ensuite, je remontai sur le pont. Hans gisait dans la position où je l'avais laissé, affalé sur lui-même, les paupières closes comme s'il était trop faible pour supporter la lumière. Pourtant, il leva les yeux dès que j'arrivais, brisa le goulot de la bouteille en homme habitué à ce genre d'exercice et avala une bonne gorgée de vin en portant son toast favori
« À notre bonne chance !»
Ensuite, il resta un moment sans bouger et enfin, tirant de sa poche une corde de tabac, il me pria de lui couper une chique.
« Fais ça pour moi, Jim, car j'ai pas de couteau et même si j'en avais un, c'est tout juste si j'aurais la force de m'en servir. Ah, Jim, je crois bien que j'ai manqué à virer. Coupe-moi une chique, mon petit gars. Tu sais, ça sera sans doute la dernière car il n'y a pas d'erreur. Je vais m'embarquer pour le grand voyage. »
Ma foi, je veux bien vous couper un bout de tabac, mais si j'étais à votre place et si je me sentais si mal, je me mettrais à dire mes prières, comme un bon chrétien.
Pourquoi ça? Voyons, dis-moi pourquoi.
Pourquoi? Tout à l'heure, vous m'avez demandé ce que devenaient les morts. Vous avez renié votre parole jurée. Vous avez vécu dans le péché, dans le mensonge et dans le sang. Au moment même où je vous parle, un homme que vous avez tué gît à vos pieds. Et vous me demandez pourquoi? Mais pour implorer la miséricorde divine, monsieur Hans. Voilà pourquoi. J'avais parlé avec une certaine chaleur, en pensant au poignard ensanglanté caché dans sa poche avec lequel l'infâme coquin se proposait de me tuer. Quant à lui, il avala une bonne rasade, puis il me répondit d'une voix solennelle.
« J'ai bourlingué pendant 30 ans, et j'en ai vu toutes les couleurs, du bon et du mauvais, du meilleur et du pire, du beau temps et des tempêtes. Les vivres épuisés, les couteaux qui entrent en danse, et tout un sacré fourbi. Eh ben, faut que je te dise une chose. J'ai jamais rien vu de bon sortir de la bonté. Pour moi, celui-là qui frappe le premier, c'est celui-là qui a raison. Morte la bête, morte le venin. Voilà mon avis. Amen, ainsi soit-il. Et maintenant, poursuivit-il en changeant brusquement de ton, on a dit assez de bêtises comme ça. La marée est assez haute à présent. Exécute mes ordres, capitaine Hawkins. On va naviguer droit vers la côte et en finir avec ce travail.
Tout compte fait, il nous restait à peine 2 milles à parcourir, 3,5 km ou 4 km. Mais la navigation présentait bien des difficultés. En effet, outre que l'entrée de ce mouillage nord était étroite et peu profonde, elle se trouvait orientée d'est en ouest, de sorte qu'il fallait piloter la goélette avec beaucoup de délicatesse pour l'y faire pénétrer. Je crois que je fus un bon et diligent subalterne, et je suis certain que Hans était un excellent pilote. En effet, après avoir viré à maintes reprises, nous pénétrâmes dans la passe en rasant les rives avec une sûreté et une précision qui faisaient plaisir à voir. À peine avions-nous dépassé l'entrée du goulet que la terre se referma autour de nous. Les rivages de la baie du Nord étaient aussi boisés que ceux du mouillage sud, mais elle avait une forme plus étroite et plus allongée et ressemblait davantage à un estuaire, ce qu'elle était en réalité. Droit devant nous, à l'extrémité sud, nous vîmes l'épave d'un navire complètement délabré. Ce grand trois-mâts, exposé depuis des années aux intempéries, se trouvait envahi par un véritable réseau d'algues ruisselantes. Sur le pont avaient pris racine des buissons du rivage, à présent tout couverts de fleurs. Ce spectacle attristant nous prouvait combien le mouillage était calme.
« Tiens, me dit Hans, voilà un coin épatant pour échouer un bateau. Un beau fond de sable fin, jamais une risée, des arbres tout autour, et des fleurs qui poussent sur ce vieux rafiot pareil que dans un jardin. »
Et une fois échoué, comment le remettrons-nous à flot ?
Eh bien voilà, à marée basse, tu portes une amarre à terre sur l'autre rive. Tu l'attaches après un de ces gros pins. Tu la ramènes ici, puis tu l'attaches après le cabestan.
Le cabestan, c'est une espèce de treuil.
Et tu mets à la cape en attendant la marée. Quand la mer est haute, tout l'équipage tire sur le câble avec le cabestan et la goélette s'en va douce comme un mouton. À présent, mon gars, attention. On approche de l'endroit et le bateau prend beaucoup trop d'air.
E2RE, beaucoup trop d'élan.
Tribord un peu
vers la droite.
Là, tout droit. Tribord, bâbord un peu, tout droit, tout droit.
J'exécutai ses ordres sans prendre le temps de respirer, jusqu'au moment où il s'écria soudain.
Et maintenant, mon brave, l'offre.
Aussitôt, je mis la barre dessus de toutes mes forces, l'Hispaniola vira rapidement, puis fila droit vers la rive basse et boisée. L'agitation provoquée en moi par ces dernières manœuvres avait un peu relâché la surveillance assez étroite que j'avais exercée jusqu'alors sur le patron du canot. J'étais tellement absorbé dans l'attente de l'échouage du navire que j'avais tout à fait oublié le danger suspendu au-dessus de ma tête. Penché sur le bastingage de tribord, je regardais les rides s'élargir sur l'eau devant l'étrave. Peut-être serais-je mort sans avoir pu lutter pour me défendre si je n'avais pas tourné la tête sous l'effet d'une soudaine inquiétude. Peut-être que j'entendis un craquement et aperçus du coin de l'œil une ombre mouvante. Peut-être que j'obéis à un instinct semblable à celui des chats. Toujours est-il qu'en me retournant, je vis Hans à mi-chemin entre le bastingage et moi, son poignard à la main. Nous dûmes hurler tous les deux à la fois quand nos yeux se rencontrèrent. Mais alors que je poussais un cri aigu de terreur, lui beugla comme un taureau furieux en train de charger. Au même instant, il fonça en avant et je bondis de côté vers le bossoir. Le bossoir, c'est une pièce de bois ou de fer qui supporte l'ancre d'un navire. Ce faisant, je lâchai la barre qui se rabattit brusquement vers bâbord. Je crois que cela me sauva la vie, car elle frappa Hans en pleine poitrine, l'arrêtant net momentanément. Avant qu'il se fût remis du choc, j'étais sorti du coin où je me trouvais acculé, et j'avais devant moi toute l'étendue du pont, où je pouvais facilement esquiver mon adversaire. Arrivé au pied du grand mât, je m'arrêtai, tirai un pistolet de ma poche, visai avec le plus grand sang-froid, bien que le patron de canot eût déjà fait demi-tour et marchât droit sur moi, et pressai la détente. Le chien s'abattit, mais il n'y eut ni éclair ni détonation. L'eau de mer avait rendu l'amorce inutilisable. Tu sais qu'on appuie sur la queue de détente qui déclenche la gâchette, le chien, qui est une pièce de métal, tape sur l'amorce qui s'enflamme et enflamme la poudre et fait partir la balle. Mais là, comme l'amorce avait été mouillée par l'eau de mer, évidemment elle ne s'est pas allumée et le coup n'est pas parti. Je me reprochais amèrement ma négligence. Pourquoi n'avais-je pas depuis longtemps rechargé et réamorcé mes seules armes? Alors je n'aurais pas été réduit à fuir comme un mouton devant ce boucher. c'était merveille de voir la rapidité avec laquelle il se déplaçait, malgré sa blessure. Ses cheveux grisonnants retombaient sur son visage, qui, sous l'effet de la hâte et de la fureur, était aussi rouge qu'un pavillon de la marine marchande. La marine marchande anglaise a un drapeau rouge avec dans le coin l'Union Jack, c'est-à-dire les différentes croix entremêlées sur fond bleu. La croix de Saint-Georges, patron de l'Angleterre, la croix de Saint-André, patron de l'Écosse, et la croix de Saint-Patrick, patron d'Irlande. Je n'avais pas le temps de me servir de mon autre pistolet. En vérité, je n'y tenais guère, car j'étais sûr qu'il serait lui aussi inutilisable. Ce que je voyais clairement, c'est que je ne devais pas me contenter de battre en retraite devant lui, sans quoi il aurait vite fait de m'acculer à l'avant, comme il avait failli m'acculer à l'arrière quelques instants plus tôt. Si je me laissais coincer de la sorte, 9 ou 10 pouces du poignard teinté de sang seraient ma dernière aventure en ce monde. 9 ou 10 pouces, ça fait 23 à 25 centimètres. Je posai mes paumes contre le grand mât, qui était d'une bonne grosseur, et j'attendis, tout nerf tendu. Voyant que j'avais l'intention de m'esquiver, il s'arrêta à son tour. Pendant quelques instants, il esquissa 2 ou 3 feintes, auxquelles je répondis par des mouvements appropriés. J'avais souvent joué à ce jeu chez nous, parmi les rochers de la baie de la Colline Noire. Mais vous pouvez m'en croire, mon cœur n'avait jamais battu si vite. Pourtant, comme je l'ai dit, c'était un jeu d'enfant, et j'estimais pouvoir triompher aisément d'un marin d'âge mûr blessé à la cuisse. En vérité, j'avais repris tant de courage que je me permis quelques pensées rapides sur la fin éventuelle de cette affaire. Tout en ayant la certitude de prolonger la lutte pendant assez longtemps, je ne voyais, en fin de compte, aucun espoir de salut. Les choses en étaient là, quand soudain la goélette toucha le fond, chancela, racla le sable l'espace d'un instant, puis d'un seul coup se coucha sur bâbord, côté gauche, si bien que le pont se trouva incliné à 45 degrés et qu'une grosse masse d'eau jaillit par les dalots pour aller former une mare entre le bastingage et le pont. Renversés en une seconde, nous roulâmes tous les deux presque ensemble dans les dalots où le cadavre rigide de l'homme au bonnet rouge, les bras toujours écartés, dégringola à notre suite. En fait, nous étions si près l'un de l'autre que ma tête heurta le pied du patron de canot avec tant de force que mes dents s'entrechoquèrent. En dépit du coup, je fus le premier sur pied. Hans s'était empêtré dans le cadavre d'O'Brien. La brusque inclinaison du navire m'interdisait de courir sur le pont. Il me fallait trouver un nouveau moyen de fuite, et cela immédiatement, car mon ennemi me touchait presque. Rapide comme la pensée, je bondis dans les haubans d'Artimon. Les haubans, c'est des espèces d'échelles de cordes qui montent au pont, qui montent au mât, grimpé main sur main à toute allure et ne reprit haleine qu'une fois installé sur les barres de hunes. Les hunes, c'est des espèces de petites plateformes qu'il y a sur le mât. Ma promptitude me sauva. Le poignard se ficha à moins d'un demi-pied en dessous de moi, 15 cm, tandis que j'effectuais mon ascension. Israël Hans resta sur place, la bouche ouverte, le visage tourné vers moi, parfaite statue de la surprise et de la déception. Maintenant que je disposais d'un moment de répit, j'en profitai pour changer sans plus attendre l'amorce de mon pistolet. Puis, certain d'avoir une arme prête à servir, j'entrepris pour plus de sûreté de retirer la charge de l'autre et de le recharger complètement, c'est-à-dire qu'il enlève la balle, la poudre et l'amorce et qu'il remet l'amorce, la poudre et la balle. Cette opération frappa Hans de stupeur. Il commença à comprendre que la chance tournait contre lui. Après avoir nettement hésité, il se hissa lui aussi lourdement dans les haubans et le poignard entre les dents, pour garder ses deux mains libres, il commença une ascension lente et pénible. Il lui fallut un temps infini et force gémissement pour traîner sa jambe blessée. J'avais paisiblement terminé tous mes préparatifs, qu'il lui restait encore à parcourir plus des 2/3 du trajet. Alors, tenant un pistolet dans chaque main, je lui parlai en ces termes. « Un pas de plus, monsieur Hans, et je vous fais sauter la cervelle. Morte la bête, mort le venin. N'est-ce pas ? Ajoutai-je en ricanant. Il s'arrêta aussitôt. D'après ses jeux de physionomie, je compris qu'il essayait de réfléchir, opération si longue et si laborieuse que, fort de ma sécurité retrouvée, j'éclatai d'un rire bruyant. Après avoir avalé sa salive une ou deux fois, il se décida enfin à parler, son visage conservant toujours la même expression d'extrême perplexité. Afin de parler, il dut retirer son poignard de la bouche, mais il ne fit aucun autre mouvement.
« Jim, dit-il, je crois bien qu'on est salement engagés, toi et moi, et va falloir qu'on signe un traité. J'aurais eu ta peau sans cette fichue embardée, mais j'ai jamais eu de veine dans la vie, pour sûr. À cette heure, faut que j'amène mon pavillon, c'est-à-dire que je me rende. Et c'est dur, vois-tu, pour un vieux maturin comme moi, de mettre les pouces, c'est-à-dire de capituler, devant un moussaillon de ton espèce. »
Tandis que je buvais ses paroles en souriant, fier comme un coq perché sur un mur, il rejeta soudain sa main droite en arrière par-dessus son épaule. Quelque chose siffla dans l'air comme une flèche. Je sentis un choc, puis une douleur aiguë, et me trouvai cloué au mât par l'épaule. Sous l'effet de la surprise et de la souffrance, je ne saurais dire que j'agis volontairement, et je suis sûr que je ne visais pas mon ennemi. Mes deux pistolets partirent, puis m'échappèrent des mains. Ils ne tombèrent pas seuls. Poussant un cri étouffé, le patron de canot lâcha les haubans pour plonger ensuite dans l'eau, la tête la première. Chapitre 27, pièce de 8. Comme la goélette donnait fortement de la bande, c'est-à-dire était penchée, la majeure partie des mâts surplombait l'eau, et du haut de mon perchoir sur les barres de hune, je n'avais rien que la surface de la baie au-dessous de moi. Hans, ayant grimpé moins haut et se trouvant par conséquent plus près du navire, tomba entre moi et le bastingage. Il remonta une seule fois à la surface, dans un remous d'écume et de sang, puis il coula à nouveau pour de bon. Quand l'eau fut redevenue calme, je pus le voir, tout recroquevillé sur le sable clair et brillant, dans l'ombre du navire. Deux ou trois poissons glissèrent rapidement près de son corps. Parfois, sous l'effet des ondulations de l'eau, il semblait bouger un peu, comme s'il eût essayé de se lever. Mais il était bien mort, tué par mes balles et noyé en même temps. Son cadavre allait servir de nourriture aux poissons, à l'endroit même où il avait projeté de m'assassiner. Dès que je fus certain de ce fait, je commençai à me sentir malade de fatigue et de terreur. Le sang coulait sur mon dos et sur ma poitrine. Le poignard, à l'endroit où il avait cloué mon épaule au mât, me brûlait comme un fer rouge. Pourtant, ce n'était pas ces souffrances réelles qui me torturaient le plus, car je me sentais capable de les supporter sans une plainte. Mais j'avais affreusement peur de tomber de mon perchoir dans cette eau verte et calme, à côté du cadavre du patron de canot. Je me cramponnai des deux mains jusqu'à en avoir mal aux ongles, en fermant les yeux comme pour me cacher le danger. Peu à peu, mon pouls reprit un rythme normal et je retrouvai ma présence d'esprit, mon pouls P-O-U-L-S bien sûr, c'est-à-dire ce qui marque les battements du cœur. Ma première idée fut d'arracher le poignard, mais soit qu'il fût trop enfoncé, soit que le cœur me manquât, je renonçai à ce projet en frissonnant violemment. Chose assez bizarre, ce frisson même me délivra. En fait, le poignard avait bien failli me manquer. Il me tenait simplement par un tout petit morceau de peau qui se déchira. À vrai dire, le sang n'en coula que plus fort. Mais je me retrouvai libre de mes gestes, n'étant plus fixé au mât que par ma vareuse et ma chemise. Je me dégageai d'une brusque secousse, puis je gagnai le pont par les haubans de tribord. Bouleversé comme je l'étais, je ne me serais pour rien au monde aventuré à nouveau sur les haubans de bâbord en surplomb d'où Hans venait de tomber si peu de temps auparavant. Une fois en bas, je pansai ma blessure de mon mieux. Elle me faisait très mal et saignait encore abondamment. Mais elle n'était ni profonde ni dangereuse et elle ne me gênait pas beaucoup quand je me servais de mon bras. Ensuite, je regardai autour de moi et comme le bateau était devenu en quelque sorte ma propriété, je songeais à le débarrasser de son dernier passager, l'Irlandais mort. Il avait roulé, je l'ai déjà dit, contre le bastingage, où il gisait tel un horrible pantin disgracieux. De grandeur nature, il est vrai, mais n'ayant plus rien des couleurs et de la beauté des formes qu'anime la vie. Dans la position où il se trouvait, je pouvais facilement en venir à bout. L'habitude des aventures tragiques, ayant presque entièrement émoussé ma terreur des morts, je le saisis par la taille comme si c'eût été un sac de son, et d'une bonne poussée, je le renversai par-dessus bord. Il tomba dans la mer avec un plongeon retentissant. Le bonnet rouge se détacha de sa tête et flotta à la surface. Dès que le clapotement eut cessé, je vis les deux cadavres côte à côte, oscillant sous l'effet des ondulations de l'eau. O'Brien, bien qu'il fût encore jeune, était complètement chauve. Sa tête dénudée reposait sur les genoux de l'homme qu'il avait tué, et les poissons, rapides comme des flèches, évoluait autour d'eux. Fin de la première piste de la 8e cassette, page 188, L'île au trésor, par Robert Louis Stevenson.